Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Pour parler d'Indianapolis en IndyCar et de Talladega en NASCAR cette semaine, programme extrêmement dense, Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour Aloïs et bonjour à tous.
Et il l'a présenté, Aloïs est là. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy, salut Lilian et bonjour à tout le monde.
Alors, messieurs, on va commencer tout de suite avec l'IndyCar qui était du côté d'Indianapolis pour deux courses, une le vendredi, une le samedi. Si on fait une synthèse globale du week-end, la bonne affaire, elle est pour New Garden. La un peu moins bonne, elle est pour Scott Dixon qui s'est vu rogner une bonne partie de son avance puisqu'il n'a plus que 24 points d'avance avant la finale, Lilian.
Bah, c'est vrai que globalement, Dixon a quand même connu un week-end compliqué. On l'a jamais vu aux avant-postes, il a jamais été en mesure d'aller chercher ne serait-ce qu'un résultat décent. Au contraire d'un New Garden qui va gagner la première des deux courses. Bon, ça a été un peu plus dur, un peu plus compliqué pour lui sur la seconde, mais oui, clairement, on en attendait quand même un petit peu plus de Scott Dixon, et puis dès les qualifications, de toute manière, ça sentait déjà pas très bon pour lui, parce que sur les deux courses, il a pas été qualifié aux avant-postes. Et je crois que c'est même sur la première course où il se fait légèrement... Je crois qu'il s'accroche à tout... C'est avec Ferrucci.
Non, c'est sur la seconde, c'est le samedi.
Le vendredi, il y a une toute petite touchette avec Ferrucci, mais sans conséquence pour la voiture. Et après, oui, sur la deuxième course, là, oui, il y a une partie à gauche entre les deux roues, ouais, qui est bien amochée, ouais.
Donc, bah forcément, c'est un petit peu embêtant, quoi.
Bah, je pense que oui, ça a peut-être dû perturber l'aéro de la voiture. Alors déjà, il n'était pas au meilleur de sa forme sur le week-end, alors en plus avec une voiture amochée. Mais c'est vrai que ouais, Dixon qui, je sais pas, qui se fait peur, hein, mais bon, à Mid-Ohio, qu'on dit comme étant son jardin, il part quand même à la faute tout seul comme un grand en sortant un petit peu trop large. Là, week-end compliqué à Indianapolis. Bon, il a encore un petit matelas d'avance pour la finale à Saint-Pete, ça doit être dans quoi, dans deux ou trois semaines, j'ai plus les
dans
dates en tête.
Dans trois semaines.
Dans trois semaines. Mais si New Garden se qualifie en première ligne, on pourrait peut-être être inquiet pour Scott Dixon.
Bah en fait, il a quoi? Il a 24 points d'avance. En gros, il faut qu'il termine dans le top 5.
Ce qui, sur le papier, est tout à fait à sa portée.
Oui.
Peut-être
maintenant,
qu'il peut faire peur, hein.
Oui, il
mettre
peut
un
faire peur.
Mettre un petit peu avant la finale, enfin, on veut. Il n'y a plus trop le choix à l'heure actuelle. Mais en général, la Chip Ganassi Racing est rentrée un petit peu dans le rhum depuis quelques semaines. Et elle a été remplacée par la Andretti Autosport et la Penske également. Donc...
Gros week-end de Rossi, c'est vrai, c'est à souligner.
Bah, Herta, Rossi, ils étaient aux avant-postes sur les deux courses. La Penske fait doubler entre New Garden pour la première course et Will Power pour la seconde. La Ganassi, on l'a quasiment pas vu du week-end. Et au final, Dixon, 9 puis 8, ce qui est rien de fou sur un peloton de 25 monoplaces, une vingtaine compétitives.
25 quand tout va bien, c'est plutôt 22-23 à la base. Hein.
Mais en tout cas, on peut être inquiet pour Scott Dixon avant la dernière course. On dit top 5 faisable, oui, sur papier. Mais finir devant des pilotes comme New Garden, comme Power, comme Rossi, comme Viquet, comme Herta, comme Rahal, etc. À l'heure actuelle, pour moi, c'est pas quelque chose qui est d'ancré dans la roche.
C'est vrai.
Ouais. Et vous avez cité les pilotes Andretti, vous en avez oublié un quand même qui était en feu, c'était Marco Andretti.
Littéralement.
Au sens propre, ouais, c'est ça, ouais.
Mais bon.
Je rebondis sur Andretti. C'est vrai qu'on en parlait pendant le direct en message. Enfin, c'était un commentaire que tu avais fait, Geoffroy. Alexander Rossi, quand il n'a pas de pépins, ça marche quand même super bien, hein.
Je te confirme que ça marche super bien. Il fait quoi? Il fait deuxième de la première course, troisième de la seconde.
Quand il n'est pas emmerdé par des soucis mécaniques ou des gens qui le percutent, c'est quand même du très 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 solide. Mais bon, ça arrive beaucoup trop tard, malheureusement, les bons résultats.
Ça arrive un peu tard. Maintenant, quand on regarde, il a quand même réussi à remonter à la 8e place du classement général, ce qui était loin d'être gagné il y a encore 2 mois de ça. Bon, c'était le début de la saison, il y a 2 mois, mais...
Bah, même Will Power, hein, il est remonté quatrième.
Troisième.
Il est même troisième. Il y a quelques. Faudrait regarder son classement, je sais pas, aux alentours de l'Indy 500. Je pense qu'il était très très loin de ça, hein. Là, il a gagné 2 courses en peu de temps. Ça a vraiment fait du bien à son classement.
Troisième,
Ah
moi je le
oui.
vois quatrième également.
Je le vois,
Non,
ouais.
non, il est troisième à égalité de points avec Colton Herta. Après,
D'accord.
j'ai peut-être les mauvais chiffres. Hein.
Il a combien de courses?
Attends, on va aller vérifier.
Je suis sur la 13e course.
Bah moi, à 13 courses, je vois Power à moins 114 et Herta à moins 101 de distance.
Ben, pour moi, j'ai Power 442 points, Herta 442 points.
Moi, j'en ai aucun au même niveau. Ah! Est-ce que toi, tu enlèves les résultats de la moins bonne course? Hein? Non.
Ben non, pour moi, il est bien quatrième, hein.
Ben, pour moi, j'ai
Là, je suis sur le
Colton
site.
Herta à 401 et Power à 388.
Ah ouais, sur le site de l'IndyCar, c'est ça.
Ok, bon, bah écoute, les résultats de l'IndyCar fournis par l'IndyCar sont mauvais.
Ah, t'es. Oh là là. Alors, ouais, alors si c'est différent entre le site média et le site public.
Je ne suis pas sur le site média de l'IndyCar, je suis sur un
Non.
autre site.
Ouais.
Ah ouais, moi j'ai Dixon 502, New Garden 470, Herta
Pareil.
401 et Power 388. Et après, on a Howard 376.
Je suis d'accord
Alors,
avec toi, Lilian.
ouais, je suis en train de regarder après Indianapolis l'Indy 500. Scott Dixon était premier avec 335 points. D'accord. Et Will Power, dont nous parlions, il était 9e avec 175 points. Donc, il avait 160 points de retard.
Bah, il en a 100, ouais, quasiment 120 encore.
Une grosse centaine.
Ouais, donc.
À
Et
115, ouais.
Alexander Gelapois Rossi, il était 14e avec 130 points. Donc il avait 205 points de retard. Et là maintenant, il en a.
187.
Il est
Voilà,
9e
180.
avec 305 points.
Oui, en fait, il est remonté au classement, mais les écarts sont globalement restés assez lisses, quoi. On a gardé plus ou moins le même écart. Mais il est remonté de quelques places au classement général. En tout cas, oui, c'est un peu plus digne du statut d'Alexander Rossi, les 2 courses qu'il nous a offertes ce week-end, que ce qu'on a pu voir en début de saison, même si ce n'était
Ouais, ça
pas
a
de sa
été la
faute.
cata, c'est clair.
Enfin, tout ce qui pouvait aller mal, allait mal. Alors, on a parlé de Power, on a parlé de Newgarden, on a parlé de Rossi, on a parlé de qui? De Scott Dixon aussi, messieurs, qui a fait 2 top 10.
Vicky qui fait un podium sur la première course après avoir signé la pole.
Après avoir fait la pole, oui, exact.
Première pole et premier podium. Si je ne me
Oui.
trompe pas, ça doit être son premier podium.
Tout à fait.
Rosenquist fait 5 sur la première course d'ailleurs. On parlait
Oui,
de.
Rosenquist
Je
fait
parlais avec
cinquième.
Messi.
Le seul top 5 de la Ganassi sur le week-end.
Effectivement.
Il y a 10 top 10 en tout, mais il n'y a qu'un seul top 5. Donc,
Par contre, on a eu le retour de ouais, Castroneves, Bourdais, ça a pas été très brillant tout ça, hein. Malheureusement.
J'allais te faire un ensemble globalement français qui n'a pas
Ouais.
été tip top.
Je pense que Pagenaud, c'est à l'image de sa saison quand même. Hein.
Ouais, enfin, Pagenaud, ouais, il est quand même sacrément en décalage par rapport à ses coéquipiers, hein. Ça fait 2 saisons que ça dure. Enfin, l'an dernier, non, il y a eu une 1500, je dis des bêtises. Mais le reste, c'était pas terrible, à part les ovales, et cette année, c'est très, très, très compliqué pour Pagenaud, hein.
Et Sébastien Bourdais, on voit très bien que le matériel de la FJ Foyt n'est pas au niveau du reste du paquet. Hein. Peut pas
Après,
faire.
c'est sa reprise, hein. Il faut lui laisser le temps de se remettre dedans. Mais ouais, c'est vrai que. Il avait déjà pas le meilleur matériel par le passé, et là, ouais, c'est. Il a retrouvé un baquet, c'est très bien, hein, mais c'est très bien pour lui.
Quand tu sais que le pilote de pointe de l'IJ Foyt Racing, c'est Charlie Kimball, c'est un peu compliqué, hein.
Oui, l'hiver va être très intéressant du coup pour Sébastien Bourdais, puisqu'il sait qu'il sera déjà chez Jay Foyt la saison prochaine. Donc il va y avoir des séances de travail assez intéressantes pour lui à mener en vue de développer la monoplace, puisqu'on sait que c'est quand même un excellent metteur au point. Et bonne nouvelle ou non, je ne sais pas, mais le report de la technologie hybride en IndyCar d'une saison supplémentaire. À l'origine, ça devait être 2021, puis avec la pandémie 2022, maintenant c'est 2023. À se demander peut-être si on le verra, si on la verra cette technologie. Ça peut permettre de travailler un peu plus et de se dire du côté de la AJ Foyt, comme pour les autres écuries, on met les moyens pour développer la monoplace pour les deux saisons restantes avec cette monoplace et cette technologie. Alors, qui pourrions-nous encore évoquer, messieurs, sur cette semaine, enfin sur ce week-end d'Indianapolis? Qui est-ce que vous avez vu ou pas vu qui vous aurait choqué?
Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On en a
On a
déjà
fait le
cité une
tour.
bonne partie, en tout cas.
Ouais, on a cité une bonne partie. Deux courses sans la moindre neutralisation.
Ouais.
À
Ah, c'est assez régulier, Indianapolis.
À Indianapolis, ouais, sur le routier, c'est quand même assez récurrent.
Si tu passes le premier virage au premier
Oui.
tour, t'es tranquille.
C'est ça.
Globalement, c'est ça.
Après, je regarde les résultats en détail. Je vois quand même que Jack Harvey sort de top 10. 8e sur la première course et 6e sur la seconde.
Ouais,
Et
pour
c'est dans
Michael
la
Schenck.
lignée de sa très belle saison à la
Ouais.
meilleure Shank Racing.
Ouais, chez Michael Schenck, ouais.
Il est plus souvent dans le top 10 qu'en dehors. C'est quand même quelque chose qui est à noter pour le Britannique, qui n'est pas forcément un vétéran de la série, bien au contraire.
Effectivement, ça fait quelques années qu'il est là. Après, c'est pas non plus le pilote qu'on voit le plus, et il faisait souvent des piges pour Indianapolis. Takuma Sato, qui a pas été exceptionnel, mais vous en avez parlé, 18 et 14, c'est plus que moyen aussi. Donc voilà.
Apparemment, selon les dires de certains, je ne citerai pas le nom, il n'y a réellement eu aucun jaune à Indianapolis ce week-end.
C'est moche.
C'est quand on s'abaisse à l'humour de certains.
C'est moche. C'est très très moche, mais c'est ce que vous faites. Mais je saurais m'en souvenir.
C'est bien glissé.
Alors, dans l'actualité IndyCar, on en a parlé, le report de la technologie hybride, ça vous fait ni chaud ni froid. La prolongation de Chevrolet et Honda. Ça vous intéresse ou pas, sachant que Honda a fermé la porte à la NASCAR, a dit à la F1, allez vous faire foutre.
Ça va être
C'est
sympa pour
bien
Red Bull.
que. Ouais, mais c'est bien qu'il reste en IndyCar quand même, Honda. Parce que
Ah non, mais c'est
sinon.
clair. Ah non, mais c'est
Je
clair.
pense que Honda devrait rester en IndyCar, notamment en lien avec la news que tu as citée juste avant, la technologie hybride. Honda a justifié son départ de la F1 pour se focaliser sur son empreinte carbone sur la planète. Et du coup, le développement d'un système hybride, d'un moteur hybride, va dans cette direction, que ce
C'est
soit pour
vrai.
le grand public ou que ce soit pour l'IndyCar. Donc je
C'est
pense
vrai.
que l'intégration de cette nouvelle technologie en IndyCar, ça peut, entre guillemets, assurer le futur de Honda parmi les constructeurs. Après, on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation, d'un changement de direction ou de stratégie, certes. Mais je pense que c'est quand même plutôt une nouvelle rassurante pour l'IndyCar.
Bah, là, maintenant, le cap est donné, hein, puisqu'on sait où ils vont et où ils ne seront plus. Donc, et puis je crois qu'ils arrêtent aussi l'endurance, non, avec la Penske. Avec Acura, c'est
Oui,
Honda.
oui.
Hein.
Oui, 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 oui.
Ils arrêtent
Oui.
la LMS, ouais.
Ouais. Donc, enfin, l'IMSA, hein, parce que la LMS, ça fait longtemps que c'est
Oh, ouais.
arrêté.
Je suis pas expert en endurance, c'est pas grave.
C'est pas
Allez,
grave, il n'y a
TMS,
pas de
tu
souci.
m'avais compris.
Oui, je t'avais parfaitement compris. Mais bon, c'est pour ceux
C'est pas
qui n'auraient
rigolo.
pas compris, qui ne connaîtraient pas la LMS. hein, qui n'aurait pas connu la LMS plutôt.
La LMS, Grand National, c'est bon.
Oui, c'est ça. C'est...
Ah, les années où Ganassi gagnait des courses.
Grand National, je sais pas.
Non, on a LMS quand même.
Allez, Lilian, je t'écoute tout de suite avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Allez, mon j'aime, on va rester en IndyCar. C'est ce sublime rétablissement de Will Power qui est, c'était à l'entrée sur la partie ovale, juste avant la ligne droite. Il avait mordu dans l'herbe, il a vraiment frôlé le mur. La voiture était quand même bien en travers et c'est quand même un rétablissement absolument magistral de la part de Will Power qui a frôlé un gros crash.
Oui, pour le coup,
c'était sur la première course de mémoire.
Oui.
Et les images au ralenti sont de toute beauté, clairement.
C'est assez fou, mais c'est vrai qu'il s'en est bien sorti. Et ton j'aime pas.
C'est toutes ces pénalités qu'on a eues sur ce week-end à Talladega. J'ai pas souvenir d'avoir eu autant de pénalités, des déclassements pour avoir franchi la double ligne jaune. Hein. On va y revenir en long, en large, en travers.
Retire la pièce du jukebox.
Bon, t'inquiète. Il y a bien assez de choses à dire. Là, voilà, j'en parle juste dans mon j'aime pas. On en parle après.
Ouais, allez, Aloïs.
Alors, moi, cette semaine, j'en ai gros sur la patate. Et du coup, ça sera deux j'aime pas.
Alors, un morceau de caoutchouc.
Non,
et un silex.
En premier, c'est le fait que Bubba Wallace a terminé la course dans le mur alors que je pense qu'il avait la voiture pour gagner et du coup ça m'a un petit peu chagriné, surtout qu'il s'est fait un petit peu virer comme un malpropre. Donc
j'ai envie de dire c'est pas le seul, tu sais.
C'est pas le seul, on est d'accord, mais j'y croyais. Et mon second j'aime pas, oui Geoffroy, c'est bien une pièce de caoutchouc. Alors je vous conseille d'expérience, prenez toujours une pompe à vélo avec vous quand vous sortez un dimanche soir à 20 bornes de chez vous et que malheureusement vous crevez au milieu de la cambrousse de nulle part. Littéralement, c'est au milieu de la race campagne avec vent de travers. Il faisait 15 degrés.
Et... Ouais, tu sais, Louis, j'ai envie de te dire, vu le trou qu'il y avait, même avec une pompe, ça aurait rien changé.
Hein. Ah oui, une pompe avec la rustine, la chambre à air.
Là, il fallait prévoir la roue directement. Hein.
Ouais, du coup, le dimanche soir, évitez de partir sans rien. C'est le seul conseil que je peux vous donner.
Je vois bien la scène, Aloïs qui fait du vélo, qui crève, qui lève la main pour appeler le directeur, le directeur d'équipe et la voiture qui vient pas, quoi, avec le vélo de réserve.
Mais tu sais qu'en plus, j'ai croisé trois cyclistes dans ma peine. Personne n'avait une pompe à vélo sur lui.
Ils sont même pas arrêtés.
Mais si, ils sont arrêtés, on a discuté, mais personne n'avait une pompe à vélo sur soi. J'ai fait le tour de la ville où c'était. Pour les Lyonnais, j'étais en carafe au niveau de Neuville-sur-Saône, je venais de Lyon. C'était pas un moment super fun. Retour 3 heures plus tard à la maison.
Je t'imagine, ouais.
Heureusement qu'il y avait un ami qui est venu me chercher en voiture, parce que sinon, je sais pas ce que...
Il regardait l'heure et il dit « Merde, je vais pas voir la course
!» Et au final, tu rentrais pile poil pour le green flag.
C'est ça. Allez, je commence avec mon j'aime. Samedi, 6 matchs, 6 victoires. C'était pas propre, mais ça passe. Pour un premier trophée cette année, on prend.
Dans la lignée de Talladega, au final. Hein.
Ça passe, temps, c'est pas en même propre. Temps, Geoffroy est propre, c'est un peu un oxymore, non?
Non, il y a des fois, c'est clinique, c'est chirurgical. Mais pas aujourd'hui. Là, pas samedi, plutôt. Il y avait des petits soucis. La cheville n'a pas aimé, mais ça, c'est un autre débat. Et moi, j'aime pas les gens qui se croient tout seuls dans le train. Qui passe des appels comme s'il n'y avait personne dans le wagon alors qu'il y a des endroits dédiés pour ça.
Ah, moi je les insulte, c'est simple.
Ouais, non, mais les insulter en fait c'est s'abaisser à leur niveau quoi, donc faut pas être aussi con qu'eux. Faut être un peu plus intelligent. Voilà.
racing, boys.
Allez, la NASCAR, parce que c'est un gros morceau, un très gros morceau de 2,66 miles, messieurs. Le Talladega Super Speedway, avec une course, ben Camille, quand même, une bonne trentaine de tours, non, une bonne vingtaine de tours à se lancer. Il a fallu passer tous ces drapeaux jaunes un petit peu merdiques de début de course, Lilian, où ils se sont tous mis en vrac. On savait pas trop pourquoi, on savait pas trop comment, mais ils se sont tous mis en vrac.
Ils avaient mis des pilotes de truck, c'est pas possible.
Non, ils avaient mis du PG1 sur les pneus.
Mais ouais, j'ai pas souvenir d'une course à Talladega aussi hachée dès le début.
Ah, c'était moche, quoi.
Depuis qu'on a mis depuis que la NASCAR a instauré les segments, globalement, on avait les deux premiers, très calmes. On avait les arrêts au stand sous drapeau vert, souvent par motoriste. Et puis bah après voilà, ça s'expliquait sur la troisième partie. Mais là, dès le début, il y a commencé à y avoir de la tôle froissée, quoi.
Ah bah oui, dès le premier tour en fait, dès la ligne droite arrière. Mais bon, c'est comme ça, ça a mis du temps. Et après, ça s'est lancé et on a hormis quoi quelques tours, on a eu toujours du 2 ou 3 de front. Il y a eu qu'un petit moment de single file, pas très long.
Heureusement qu'il y a eu Jimmy Johnson. Non, mais c'est vrai. C'est en dépassant Jimmy Johnson que ça a un peu relancé le tout. Bon, il y a eu un drapeau jaune par la suite, en plus. Mais c'est vrai que cette single file, elle a été vraiment très sporadique.
Oui, oui. C'est clair. C'est ça. Ça a été un débris déposé, je crois, par Jimmy Johnson.
Avec les turbulences, ça a arraché le bout qui restait de son pare-choc arrière.
C'est ça, c'était mon autre j'aime pas, mais vu que tu as commencé à ouvrir boîte de Pandore, faut en parler 2 secondes, quoi.
Les voitures Mad Max, on en a eu une paire. Hein.
Mais on a que ça. Je veux dire, à un moment, les pilotes qui rentrent dans les stands alors que les stands sont fermés, bah, ils y restent jusqu'à temps que les stands ils soient ouverts et que les leaders ils aient fait leurs arrêts. Et comme ça, les équipes elles travaillent correctement sur la voiture. Parce que c'est n'importe quoi. On a eu Johnson, on a eu Kyle Busch, on a eu Bowman.
Bowman, il a fait l'arrivée, Bowman. Hein.
Oui, Bowman, il a fait l'arrivée.
Mais Bowman, ça a tenu. Il est rentré un nombre incalculable de fois, mais ça a tenu.
Il a fait, je crois, 13 ou 14 arrêts.
T'as eu Kyle Busch également?
Ouais.
T'as eu Truex? Est-ce qu'il est reparti?
Truex? Oui,
c'est reparti, oui. Ouais, t'as eu Blaney également, qui ta voiture était un peu amochée. Qui tu as eu d'autre t'as eu Jimmy Johnson, je sais pas si tu l'as cité.
Oui, Jimmy Johnson, oui.
Austin Dillon, c'est peut-être ma mention spéciale, la spéciale Alu, qui était super bien réalisée. Bon, la voiture avançait pas des masses, mais franchement.
T'as eu Tyler Reddick aussi.
Après Tyler Reddick, c'était minime quand même.
Il y en avait certains aussi, c'était minime, et ça s'envolait à tous les coins de rue. Hein.
Ah bah ça s'envolait pas, hein, Reddick. Hein.
Non, Reddick, ça s'est pas envolé, mais il y en a d'autres, oui. Donc bon.
Bah oui, il y a eu Kurt Busch.
Kurt Busch, ouais. Bon, en fait, c'est presque plus simple de faire la liste des voitures qu'on paye de soucis.
Est-ce que tu comptes le dernier tour ou pas? Parce que je pense qu'aucune voiture n'est intacte.
C'est ça, il n'y a aucune voiture intacte.
Parce qu'on aurait pu citer Hamlin, Jones, Byron, Elliott, entre autres, je pense Newman également. Nemechek était plutôt clean également, mais tous ont tapé dans les 2 derniers tours, je pense.
Oui. Sans problème. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, essayé de taper ou essayer d'éviter les contacts. Donc, on a parlé un peu de tout cela. Tu veux déjà aborder le dernier tour, Aloïs?
Ah, tu choisis. Le jukebox est prêt à être lancé avec Lilian, donc à toi de voir.
C'est ça.
Non, comme si, avec moi à la base, c'est toi.
Ah non, j'ai dit Lilian et moi.
Ah, pardon.
On est toi, être chaud. T'es un jukebox de crise, quoi. 50 centimes, tu nous fais 3 heures, a priori.
Il a baissé ses tarifs.
Il a baissé ses tarifs.
Ah bah faut s'adapter à la demande, hein.
C'est ça. La Lyonnaise, c'est plus ce que c'était. Alors, on va donner le classement, mais si on va donner le top 10.
Que ça aussi, ça vaut son pesant d'or.
Ah bah, Denis Hamlin, sur un ovale type Daytona Talladega, c'est pas une surprise. Et Eric Jones, tu peux te dire, si tu rates que le classement, que la Gibbs, elle a bossé ensemble.
Oh pardon, j'ai explosé de rire, je m'attendais pas.
Ty Dillon,
tu peux te dire.
Ty Dillon, bon, ça peut faire partie des malentendus sur Daytona ou Talladega. William Byron chez Elliott, tu peux te dire que la Hendrick, elle a bossé ensemble.
C'est vrai, ils ont bossé ensemble.
Ryan Newman, tu te dis, ah, bah, pour une fois qu'il s'est pas envolé à Daytona ou à Talladega, il termine bien placé.
Non, mais il nous a fait la stratégie du planqué, comme je dis. Ça vous plaît, mais c'est ça, il fait ça tout le temps, de toute façon.
Ouais, Tyler Reddick, il s'en est bien sorti. John Hunter Nemechek, certains l'ont presque vu gagner sur le dernier restart. Brennan Poole, bah, ça fait partie des surprises que tu peux voir à Talladega. Et Ryan Preece.
Brennan Poole, je tiens à préciser qu'il a quand même passé une bonne partie de la course à l'avant du peloton.
Oui.
Donc il sort pas de nulle part et il était plutôt en bonne position. Franchement, j'applaudis.
Oui, mais à la fin, en fait, ça manque, on va dire, d'expérience à l'avant sur les moments critiques de fin de course.
Et de support, parce qu'il se faisait un petit peu lâcher par tout le monde également.
Oui, mais en fait, comme il n'y a plus de coéquipiers qui tiennent, il n'y a plus d'amis, rien dans les derniers tours à Talladega, sur un malentendu, ça peut passer, quoi. Demandez à Trevor Bayne. Bon, lui, c'était à Daytona, mais demandez-lui.
Bah, Trevor Bayne, pour rappel, il a eu la bonne petite derrière lui quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée.
Ouais.
Improbable.
Improbable quand même le duo Trevor Bayne, Bobby Labonte.
Surtout quoi, il y en avait un chez Ford, l'autre chez Toyota, pour rappel.
Et derrière, tu avais Carl Edwards qui était chez Ford. Et oui. Tu avais Montoya à un moment, et c'était Newman qui était là déjà avec Edwards.
Ah oui, je crois.
Peut-être.
C'est fou, hein. Mais bon, c'était. On fêtera les 10 ans dans quelques mois, messieurs.
Oh putain.
Comment prendre un coup de vieux, quoi.
Ah ouais, c'est exactement ça, 10 ans.
Merde. Aloïs, il se fait, oh mince, à l'époque, j'avais 3 ans, j'avais pas encore mué, quoi.
Non.
Mais non, bon. J'étais pas majeur. J'étais pas majeur il y a 10 ans.
Ouais, c'est vrai. C'est triste. Ouais, mais donc, t'avais pas mué, c'est bien ce qu'on dit, on en revient bien là. Alors... On va revenir un petit peu sur ce dernier tour et faire le lien un petit peu avec les pénalités qu'annonçait Lilian tout à l'heure. Il y en a eu dans tous les sens pour blocage. Alors, en début de course, il y avait eu Logano. Enfin, sur la fin du deuxième segment, je crois. Logano.
Ouais, il a perdu les points. Il a été rétrogradé. Il a été remis en fond de dernier pilote dans le tour.
Donc, on en a eu un autre après.
Mais il s'est fait avoir deux fois, Logano. Il a pris deux fois des pénalités.
Il n'avait pas compris la première fois. Il a fallu lui expliquer.
Mais je crois que c'était au drapeau jaune qui lance le premier overtime. Je peux dire une bêtise?
Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Le drapeau jaune du tour 184.
Ouf.
Et je ne sais plus pourquoi. C'était qui? Ah oui, c'était quand Harvick se met... Oui, c'est ça, au moment où Harvick, Logano, non, Blaney, Kyle Busch, au niveau de la ligne, enfin, j'ai la ligne de départ arrivée, mais c'est sur...
Non, c'était après. Dans la ligne droite arrière.
C'est après, c'est même pour le deuxième overtime. Donc.
De toute manière, Logano, encore une fois, était très agressif, et il a quand même été limite plus d'une fois. Au-delà des pénalités qu'il a pris, il a quand même manqué d'en envoyer une paire au tas plusieurs fois. Ouais, Logano encore, ouais, enfin, je trouve.
Après, c'est sa marque de fabrique sur Oval à plaque de restriction, enfin, sur Super Speedway, comme Brad Keselowski. On sait que les pilotes Penske sont super agressifs. Ryan Blaney, c'est du même acabit. Il a été un petit peu plus embêté par les accidents sur cette course, Mais en général, les trois pilotes Penske, c'est là que je te pousse pour me faire de la place, hein.
Ouais, mais puis avant, enfin, ils avaient encore des sacrées voitures, hein. Les deux, quand ils bossaient ensemble, c'était presque imbattable, hein. Ils avaient une sacrée vitesse de pointe.
Mais au final, Logano se fout au tas. Brad Keselowski se fait sortir comme un malpropre.
Ah bah chez Penske, ouais, personne. C'est assis le. Bah non, personne termine puisque le Keselowski est accidenté dans le dernier tour.
Messieurs, si je vous donne juste un chiffre, si je vous dis 53, ça vous fait penser à quoi?
53.
Le
Ouais.
nombre de voitures citées dans les accidents.
Presque. Le nombre de voitures impliquées dans des crashs à Talladega sur la course des playoffs sur ces 2 dernières années cumulées.
Ah, sur les 2 années
Et
plus.
à titre de comparaison, les Daytona 500, 2020 et 2019, quand tu cumules, on arrive à combien selon vous?
Ah, je dirais entre 25 et 30.
Lilian?
Les deux cumulés?
Ouais.
Bon, allez, je dis ouais, entre 15 et 20.
Ben, vous êtes très loin du compte et je suis étonné que Aloïs n'ait pas trouvé, parce que c'est quand même un hommage à son
42, tu veux?
département. 69.
Ah, nice.
Et oui, 69 voitures impliquées dans des
Donc
crashs sur les Daytona 500
plus qu'à
2019 et
Talladega.
2020. Et oui, plus qu'à Talladega, 16 de plus.
En,
Ah.
en, 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 encore une raison pour que Dale Earnhardt Jr. sponsorise ses courses, quoi.
Ah bah, elle, il faut qu'il
Les
ouvre un
Dale
musée,
Earnhardt
mais
Mascard
faut qu'il
2.
l'agrandisse, hein.
Là, parce que là, ça grossit très vite, hein.
Ah, moi je veux une course à Talladega, c'est les Dale Earnhardt Backyard 500.
Non, Junkyard.
Junkyard.
Ouais, c'est fou. Mais au-delà de ça, on a quand même eu des accidents énormes. Et tout le monde s'en sort indemne. Je pense à Kurt Busch notamment, qui,
On prend
quand
une
même,
bagnole.
a
Tout
une
besoin de courir
hauteur.
par Pantano, quoi.
Oui, parce qu'il est super haut, hein.
Il tape surtout le mot, je trouve qu'il tape surtout le mur très fort avant de s'envoler.
Aussi. Et puis on a eu deux, trois épaves à la fin qui étaient vraiment pas belles à voir. Il y en a qui sont repartis sur la dépanneuse.
Bah, celle de Kyle Busch,
Enfin,
à
celle de
force
Kyle,
de
ouais,
se
bah ouais.
faire percuter, elle ressemblait plus à grand-chose.
Pourtant, elle a été bien rafistolée pour qu'il essaye d'aller au bout. Mais non, c'est. Non, quand ça veut
Non.
pas, ça veut pas pour Kyle Busch.
C'est ça, quand ça veut pas,
Bah
ça veut
là.
pas.
Je regarde les détails des incidents. Kyle Busch est impliqué dans trois big ones différents. Celui d'Arik Almirola et Alex Bowman au tour 59. Celui de Kurt Busch, du coup, au tour 110. Et enfin, pour conclure en beauté, celui de Kevin Harvick et de Ryan Blaney, non, de Joey Logano sur le second overtime.
Non, mais de toute façon, cette année, il n'y a rien à faire pour Kyle Busch. Hein. Il l'a dit, il est déjà poissard sur toutes les autres pistes. Alors là, t'as la dégâts où il faut parfois un petit peu de chance pour passer entre les gouttes.
Donc ça y est, on peut le dire, Kyle Busch ne gagnera pas cette année comme Jimmy Johnson.
Ah, l'Oroval n'est pas terminé encore.
Il y a encore l'Euroval, mais on va y revenir après sur le classement. Mais oui, il est un petit peu distancé quand même.
C'est ça. Et un qui a bien fait de gagner la semaine dernière, c'est Kurt Busch, hein, quand même.
Ah bah c'est la première chose à laquelle j'ai
Ah, bah,
pensé.
ah oui, dès que tu vois l'accident, tu te dis, oh, il a bien fait. Parce que Kurt,
Oui.
je le vois absolument pas gagner sur l'Euroval.
Non.
Donc, victoire ou pas la semaine dernière. Donc, oui, c'est clair qu'il pouvait se permettre d'être accidenté à Talladega. C'est ce qui s'est passé, mais c'est sans conséquence pour lui sur le classement.
Parce que quand on regarde le classement aujourd'hui, il est dixième. Par rapport à Joey Logano, il est déjà à 56 points. 26 points, pardon. Donc oui, enfin, c'était pratiquement victoire impérative à Charlotte cette affaire, quoi. Donc on a dit, il y a eu des accidents dans tous les sens. Clint Bowyer, il faut en dire un mot quand même. L'interview blasée. Un peu responsable quand même par moment le bonhomme, non?
Bah c'est lui qui sort Johnson, non?
Oui. Oui. Oui, si je me souviens bien, c'est lui qui sort Johnson.
Ah oui, pour moi c'est lui qui est derrière, ouais.
Oui, c'est ça. Il pousse Johnson, il le déstabilise et je crois qu'il le termine.
Non, j'ai rien fait, monsieur. J'ai rien fait, monsieur l'agent, c'est pas moi.
C'est pas moi, monsieur l'agent. Mais bon, c'est... voilà, après, ça, ah bah ça arrive aussi. Mais...
Chez Stuarta, soit il y a quatre épaves. Hein. Et de la bonne épave.
Et au classement général, chez Stewart Haas, donc tu as Kevin Harvick qui n'est que deuxième. Et sinon, c'est 10-11-12. Hein. 10-11-12, non, pardon. Kurt Busch, il n'est plus chez Stewart Haas. Ils sont 11 et 12, les deux derniers restants. Donc, c'est quand même moyen. Et c'est condamné à la victoire à Charlotte. Du coup, on a eu des accidents. Il y en a qui ont voulu éviter des accidents, messieurs. Et il y a eu des petits passages sous la ligne jaune, assez savoureux, et des décisions assez incomprises,
disparate.
Incompréhensibles, disparates, à géométrie variable.
Selon l'œil de chacun, chacun appréciera, voilà, c'est tout.
À la tête du client, hein, je crois qu'il fallait sauver Chase Elliott. Attends, honnêtement, en direct, toi, tu dormais depuis 2 heures, mais on discutait avec Lilian, et quand on voit le final, tout de suite, j'ai dit à Lilian, pénalité pour Elliott et je ne sais plus qui est l'autre pilote.
C'était Di Benedetto.
Et Di Benedetto ou... Non.
C'est Di Benedetto qui est déclassé.
Oui, ben voilà, ben, c'est ça. C'est les deux que
donc, je te dis. Benedetto, pour moi, ça s'est fait tout de suite.
Ouais.
Et Chase Elliott, sur le coup, ça a été annoncé aussi, puisque toi, c'était ce que tu avais publié sur le site. Et ouais. Ben, puis finalement, ouais, ça a été. Ils ont changé, ils ont ravisé leur jugement. Et ouais, et à la place, ouais, c'est Buescher qui s'est fait taper sur les doigts.
Et au classement général, quand même, Chase Elliott, il est troisième avec. 44 points d'avance sur Kyle Busch, qui est premier éliminé. Il gagne 17 points, je crois, dans l'affaire.
Ah oui, ça doit être ça, ouais.
Cinquième plutôt que 22.
15 au lieu de 22, ça, c'est 17 points. Ça change un petit peu la donne. Hein. 44 moins 17, ça faisait quoi ? Ça faisait un petit 27 points de retard d'avance. Bon. C'était un peu moins confortable.
Bon, pour remettre dans le contexte cette situation avec Di Benedetto et Elliott, c'est tout part entre le turn 3 et le turn 4. Donc, dans le dernier tour, Di Benedetto mène devant Jones, Buescher et Byron.
Après, c'est deux actions qui sont séparées. Hein.
C'est deux actions qui sont séparées, c'est ça. Et à ce moment-là, c'est là où tout part en couille, pour faire simple. Eric Jones qui finit dans le mur, Buescher et Byron qui le dépassent, et puis Di Benedetto qui ferme une porte monumentale sur Byron, et c'est à cause de cette action-là qu'il prend la pénalité et d'être rétrogradé en 21e place. 21e. D'ailleurs, move très dangereux à mon sens, qui mérite totalement cette pénalité, parce que faire haut, il était contre le mur. Et il se rabat sur la ligne jaune pour littéralement pousser Byron. Je trouve ça très limite. Et juste derrière, on a Hamlin qui franchit la double ligne jaune juste derrière Byron. Et c'est là où, je pense, Buescher aurait dû prendre une pénalité s'il avait dû en prendre une. Puisque Hamlin est sur l'apron. À ce moment-là, il est quasiment sur la partie plate. Et il dépasse Eric Jones et Buescher. Et ensuite, tu as Elliott qui, dans le turn 3, devait être 8 ou 9e, profite de tous ces incidents. Il se blottit dans l'aspiration de Ty Dillon et, fait surprenant ou pas, il contourne littéralement Chris Buescher en passant en dessous de la double ligne jaune.
Oui.
Les officiels pensent que c'est Buescher qui décide que c'est Buescher qui pousse Elliott en dessous de cette ligne. Alors que si on regarde la vidéo, on peut en douter.
Oui,
dans le trio
pour nous, on est d'accord, Loïs. pour nous, c'est Elliott qui se décale.
C'est Elliott qui se décale. On voit clairement la voiture contourner Buescher, alors qu'au moment où Buescher se décale vers le bas de l'ovale, il était devant Elliott sans contestation possible.
Pour moi, il y a aucun souci de ce côté-là. Enfin, pour moi, l'annulation de la pénalité d'Elliott est injuste.
Injustifié, plus qu'injuste. Il n'y a aucun moyen...
Injustifié. Enfin, la pénalité était justifiée. Il n'y avait rien qui me choquait.
Oui, on est d'accord. Elliott contourne Buescher plutôt que Buescher se déporte pour bloquer et oui. Pousser Elliott en dessous de la double ligne jaune.
Tout à fait. Du coup, ça fait un petit peu... Pour essayer de faire un peu avancer la chose, c'est cette histoire de double ligne jaune et de pénalité. Est-ce qu'il faut garder cette double ligne jaune et continuer de mettre des pénalités à tour de bras à toutes les courses? Ou au contraire, est-ce qu'il faudrait, comme le disaient Dale Earnhardt Jr. et Dale Jarrett à l'issue de la course sur NBCSN, annuler cette règle, avoir le droit de courir partout, comme c'était le cas au début des années 2000, si vous vous souvenez des derniers tours avec la 76e victoire de Dale Earnhardt Sr. lors de la course de Talladega.
Bah, les mecs sont dans l'herbe.
Il y en a qui vont goûter l'herbe. Donc, il n'y avait pas cette règle à l'époque. Hein.
La double ligne jaune, ça permet, j'ai envie de te dire, un petit peu de cadrer, quoi.
Ça donne de la sécurité.
Ouais.
Tu peux faire tout et n'importe quoi sur un ovale où tu es quasiment à 200 miles à l'heure pendant 4 heures.
Oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je pose la question.
Ah, mais la question se pose totalement, on est d'accord.
Hein. Mais en fait, après, je veux ta réponse.
Après, c'est la première course. Ça faisait un moment que cette double ligne jaune n'avait pas posé autant de soucis. Je me rappelle, c'était dans Talladega, c'était avec Regan Smith et Tony Stewart.
Et tu sais que j'y pensais au début du débat, je suis allé chercher la date pour aller voir la vidéo.
C'est quelle date ça?
Ça remonte à 2008 et de mémoire, c'est Talladega 2. Oui,
c'est Talladega 2 pendant les playoffs.
Et oui, Regan Smith va volontairement au-delà de la ligne jaune parce que Tony Stewart protège justement l'intérieur de la double ligne jaune.
Oui.
Regan Smith passe en premier la ligne d'arrivée. Mais comme il est au-delà de la double ligne jaune, il est déclassé et c'est Stewart qui est déclaré vainqueur.
Et encore, ça met longtemps à venir. Et à l'époque, c'est ESPN qui commente la course. Et les commentateurs ne savent pas. Ils te disent, ils pensent que c'est légal, d'autant plus que c'est le dernier tour.
Bah, c'est cette course-là qui a vraiment mis en lumière cette règle de la double ligne jaune. Et
oui,
qui l'a, entre guillemets, popularisée, c'est-à-dire qu'il l'a rendue connue à la quasi totalité des fans de NASCAR. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé et ça revient sur le premier plan à la suite de cette course à Talladega. Et je pense que Dale Earnhardt Jr. a très bien synthétisé la situation dans la pré-course. Je ne sais pas si vous avez écouté ses paroles, mais il expliquait que la NASCAR n'aime pas se trouver dans cette position parce qu'elle aimerait ne pas à interagir sur les résultats de cette sorte, donc à légiférer grâce à son code et ses lois sur une course. Elle n'aime pas cette position et la plupart, tout du moins, j'allais dire des pilotes, mais également des anciens pilotes, puisque Jeff Burton et Dale Earnhardt Jr. étaient plutôt d'accord en discutant dans l'après-course, c'est que cette règle, elle n'a plus forcément lieu d'être. Outre pour garantir la sécurité des pilotes. Et je pense que c'est sur ça que la NASCAR appuie son raisonnement, c'est que ça permet de garantir une sécurité et de ne pas laisser libre cours, on va dire, à l'imagination des pilotes pour faire des conneries.
Bah oui, parce qu'après, tu vas aller où jusqu'au tassement
Bah après, tu peux bloquer, tu peux tout faire. C'est-à-dire, tu peux même envoyer quelqu'un sur la partie plate de l'ovale pour créer des accidents. Au final, si tu passes cette ligne jaune, cette double ligne jaune, tu sais que tu vas être pénalisé. Tu es moins agressif, bien que ça ne s'est pas forcément vu sur cette course.
Sur cette course-là, on a quand même battu des records d'agressivité et de drapeau jaune aussi au passage.
Ouais, ça a été assez violent.
Et je pense que c'est d'ailleurs la course la plus longue de la saison.
13 drapeaux jaunes, 4h05. Hors Coca 600 et Suzanne 500, c'est ça, qui sont déjà traditionnellement très longs.
Ouais, c'est vrai que c'est vrai que là t'as quand même eu beaucoup d'accidents, pas beaucoup de drapeaux jaunes, plusieurs drapeaux rouges,
Ouais,
trois
mais les drapeaux
overtime.
rouges ne comptent pas dans le temps de course, hein.
Ah ouais, par contre, nous, quand il y a 1 h du matin, on le compte, hein. Je crois.
Mais en tout cas, tu sais que la course a été longue quand NBC, enfin quand la NASCAR se fait littéralement virer de NBC pour finir sur NBCSN.
C'est ça.
Ouais, c'est clair.
Mais en tout
Mais
cas, pour
ouais.
revenir sur le débat de la double ligne jaune, selon vous, est-ce qu'il faut garder cette règle ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser à partir de maintenant?
Moi, je suis
S'en
pour la garde.
débarrasser, c'est la porte ouverte à des gros cartons dans la ligne droite des stands avec l'herbe. Enfin, dans la ligne droite
Les
arrière,
gros
vu comment
cartons,
c'est
il y en a déjà
bosselé.
bien assez comme ça.
Ouais. Non, je pense qu'il faut la garder, mais qu'il faut s'acheter un code de conduite des officiels.
Plus de constance?
Ah ben, oui,
Entre
oui.
autres.
Entre autres,
Ah
oui.
ouais, mais là c'était Elliot aussi, comment veux-tu?
Ah ben, non, mais comment veux-tu? Mais Elliot ou pas Elliot, il doit prendre une prune, il prend une prune, quoi, je veux dire. Et à un moment, faut arrêter, quoi. Donc, bon. Je sais pas, ça me paraît aberrant que la même action qui entraîne les mêmes conséquences n'ait pas les mêmes sanctions. Mais bah, c'est peut-être mon côté un peu trop psychorigide, quoi.
Un petit peu trop allemand.
Ouais, c'est ça, ouais. Il y a longtemps que je l'avais pas sorti, quoi, une semaine. Messieurs, donc, Talladega, c'est passé. Talladega a fait du mal au classement pour de nombreux pilotes. À l'heure actuelle, Kyle Busch, Austin Dillon, Clint Bowyer, Harry Almirola sont du mauvais côté de la barrière. Clairement, pour Bowyer Almirola, c'est victoire obligatoire. Pour Kurt Busch et Kyle Busch, c'est intervention divine s'il n'y a pas de victoire. Et tout ça va se jouer, messieurs, chez Chase Elliott, sur le Roval de Charlotte, où là encore, ça peut être au moins aussi animé que sur un ovale à plaque.
Ah, ça peut être très drôle, c'est clair.
Ah bon, on les a vus sur les 2 dernières saisons, c'était assez chaud.
C'était l'an
C'était.
dernier que Chase Elliott va taper le mur de pneus
Oui,
et va quand même gagner.
sur le restart, il tape super droit, il rebondit dans
Oui,
les pneus
il se
du
loupe
virage 1
complètement, ouais.
et il remonte tout le monde et il a détruit tout le monde l'année dernière. Donc,
Et comment oublier la première année où Jimmy Johnson
Sort
se tient
Truex.
avec Martin Truex Jr. dans la dernière chicane?
Non, c'est ça, dans le dernier virage, quoi.
Enfin,
Avec un freinage totalement raté.
c'est Johnson qui sort Truex, hein. Ils se sortent pas mutuellement, hein. Faut remettre
Oui.
les choses dans le contexte.
C'est Johnson qui foire totalement son freinage.
C'est clair.
En tout cas,
Et
il n'en a
Blaney
pas
qui
raté
va
beaucoup.
gagner, on sait pas trop comment.
Sur la pointe des pieds.
Oui, mais il a évité le carnage. Il était bien placé à 2 secondes en embuscade. Et Johnson, il tente son attaque. Et c'était à l'époque où, enfin, voir Johnson devant essayer de gagner des courses, c'était pas une aberration. Mais sauf que déjà, il ne gagnait plus.
Et
Et
en tout
ben
cas,
là.
cette année, Chase Elliott n'aura pas besoin d'une victoire pour se qualifier au troisième tour des playoffs.
Non, normalement, ça devrait le faire.
Avec 44
Normal.
points d'avantage sur Kyle.
Ouais, puis en arrivant sur un circuit routier, ouais, c'est clair.
Oui. Enfin, faudrait un cataclysme.
Et d'ailleurs, Bowman également se retrouve dans une situation très positive.
Il a
22
22
points de protection.
points. Il a 22 points.
Et on
C'est.
sait
Ouais.
qu'il est très bon sur circuit routier et notamment sur le Roval.
Et par contre, si
Oui.
je veux. C'est le premier routier de la saison, du coup.
Mais non. On a eu Daytona.
Exact. Ah ouais, non, ça, non, mais je réfléchissais, je dis oui, donc on n'a pas été au Glen, on n'a pas été à Sonoma, qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
On a
Oui,
fait
c'est.
Daytona avec la victoire de Chase Elliott.
Ah, étonnant. Avec combien? 15 secondes d'avance, c'est ça?
Ouais, j'ai pas
C'était
les
une
chiffres.
course très calme. Plus calme que ce qu'on espérait, en tout cas.
Voilà, mais de toute façon, l'an prochain, si Chase Elliott n'est pas champion.
Oh, attention! On va noter ça. On leur dira quand ce sera nécessaire.
Ah ouais, ça on va te le ressortir. 5 octobre 2020, c'est noté. C'est noté.
Voilà, alors juste pour préciser le Daytona sur le circuit du Rolex, il y a eu 4 drapeaux jaunes. La fin du premier segment, la fin du deuxième segment, une petite interruption de course pour de la pluie, et ensuite Kyle Busch qui se fout dehors. Et c'est tout.
Oui, donc en fait, il y a eu un fait de course.
La pluie.
Non, Kyle Busch. Ah, d'accord, ok. Non, un fait de course, un incident de course, en fait. C'est tout, t'as eu que ça.
Un jaune pour une voiture jaune.
Oh, ça y est, il recommence.
Est-ce qu'elle était jaune, sa voiture, ce jour-là?
C'est un M&M's qui avait fondu.
Non, c'était... Il avait la décoration Snickers.
Snickers? Ah, c'est pareil, c'est...
Ouais, il a répondu à toi, Loïc, il est fort.
Donc elle était marron, sa voiture.
Il est toujours aussi rapide.
C'est vrai, sauf sur un vélo.
Ouais.
Ça dépend quand. Mais en tout cas, sur le seul circuit routier de la saison, Chase Elliott s'est imposé devant Hamlin, Truex, Johnson, improbable, Chris Buescher, encore plus improbable, et Clint Bauer, qui faisait sixième.
Comment tu le prononces ?
Bauer.
Clint Bauer.
Ok. Tiens, il y a un nouveau pilote dans le peloton, on ne connaît pas.
Ouais, moi aussi, j'étais pas au courant, j'ai pas fait attention.
Ouais, Bauer n'a pas signé à la Stuartas, tu vois, c'est une info.
Alors, messieurs, justement, Charlotte, pour conclure sur ce Roval, les quatre qui sont dans la charrette, ils y restent ou un petit peu de changement?
Moi, je dis un petit peu de changement.
Alors, qui?
Allez, vas-y, mouille-toi.
Alors, Almirola, Bauer. Dillon, je pense que c'est
mort.
C'est un petit peu trop tard. Ils ont laissé passer leur chance. Par contre, Kyle Busch, on sait qu'il est énervé, on sait qu'il est vénère. Là, en 2020, il est tendu. il doit gagner 21 points sur Logano, 22 points sur Bowman. Et si jamais il arrive un truc à Truex, 32 points. Tu gagnes un segment et dans l'éventualité où Logano, Bowman ou Truex ne se trouvent pas dans les 10 premiers, c'est déjà 10 points. Donc, il lui reste plus qu'à gagner 10 points. Sur un circuit routier, notamment au Roval, il peut se passer quand même beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, même si Kyle Busch ne gagne pas, il arrive à faire un top 5. Voir un Logano ou un Truex hors du top 15, ou, allez, on va dire Bowman s'il arrive une merde, c'est pas impossible.
Non, mais le mec, il fait 10 minutes, il rajoute tous les pilotes possibles, quoi.
Non, j'en sors que 3. Je veux dire, non, j'en sors. Je me focalise uniquement sur 3 pilotes où ce serait possible en termes de points.
Lilian, non, parce qu'après avoir entendu ça, on peut mourir tranquille.
Kyle Busch peut se qualifier. Victoire, il en est capable. Et même au point, je pense qu'il y a une fenêtre.
Alors, moi, j'ai de plus athlétique, Geoffroy, t'inquiète.
Ouais, vas-y.
Là, sur les 4, pour moi, il y en a. Je partage l'avis d'Aloïs, il n'y a que Kyle Busch qui pourrait se qualifier. Mais par contre, pour cette année, il est tellement poissard, il lui arrive tellement de merde, que même 21 points sur un Logano ou 22 sur un Bowman, je pense que malheureusement, ça ne va pas le faire. Donc je pense qu'on va rester avec les 8 qui sont déjà qualifiés actuellement, et voilà, ça restera comme ça.
Ah, tu vois, moi, j'y crois Kyle Busch qualifié.
Non, mais Kyle Busch qui sort Logano pour se qualifier.
Justement.
Ça, quand tu connais l'antagonisme entre les deux depuis quelques temps, ça pourrait être très, très bon. Mais non. Enfin, pour moi, Kyle Busch, il a le chat noir qu'avait à une époque Jeff Gordon dans la 24. Je pense qu'il l'a récupéré et que là, cette année, il faut l'oublier vivement 2021. Une année où il y aura beaucoup plus de séances d'essai qu'il y en a eu en 2020, mais pas suffisamment pour lui. De quoi ?
J'ai dit, c'est ça la beauté de Kyle Busch. Il est sur une course, on est capable de l'enterrer, mais également de l'envoyer à la victoire, et entre-temps, qu'il lui arrive une merde, ou alors qu'il gagne 20-30 points sur de ses concurrents directs. Et c'est pour ça qu'on adore Kyle Busch, il est capable du meilleur, et en 2020 surtout du pire.
C'est ça. Et dans le pire, c'est lui le meilleur, comme disait Coluche.
Également.
Messieurs, voilà, je pense qu'on a été complet sur Talladega et sur Charlotte. Juste un petit mot quand même pour faire plaisir à Lilian, puisque ça va devenir, je pense, un petit peu notre rendez-vous hebdomadaire. L'avancement de la signature de Kyle Larson à la Hendrick Motorsports. Bah, mais vous avez vu que Kyle Larson a quand même ouvert a rouvert son site internet, qui devient un petit peu un journal du grand pardon, où il explique un petit peu qu'il fait amende honorable, qu'il est allé voir du monde, qu'il s'est expliqué, que tu sens que
entre deux courses de sprint car,
voilà, on a renclenché la machine. Je vais revenir en cup. Ce sera à la Hendrick. J'ai fait une grosse connerie. Je l'avoue, je l'assume. Je vous demande pardon.
T'as vu la belle photo que je t'ai envoyée, hein?
Oui, c'est. Mais voilà,
tu pancarte. Bon, c'est un montage, mais c'est très drôle.
Mais tu sens bien que voilà, les choses avancent. C'est le retour de Kyle Larson. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Hein,
le grand patron Rick est à la manœuvre.
Ça se précise. Il y a des choses qui se trament en coulisses. Et voilà, il ne faudra pas être surpris que après le banquet de Nashville, qui n'aura pas lieu d'ailleurs, je crois, on nous annonce que Kyle Larson a signé en 2021 en Cup à la Hendrick.
Moi, tu vois, tout ce que je retiens dans cette histoire, c'est que Kyle Larson a embauché un nouveau attaché de presse. C'est tout ce que je retiens.
Je crois que t'allais dire, tout ce que je retiens, c'est que le banquet est annulé. Je vais dire, non, il va pas oser.
Aussi. Je pourrais pas bouffer à l'œil.
Je voulais voir Kim Kuhn, merde.
Ah, merde. Dommage. Messieurs, on va s'arrêter là-dessus. On va se donner rendez-vous ce week-end pour Charlotte, parce que ça va quand même être incontournable. Charlotte est toujours incontournable, messieurs. Surtout depuis 2 ans avec le routier. Aucun jeu de mots, Salas, Lilian, je te vois venir, je te vois sourire.
Oh non, là, j'y ai même pas pensé.
Le hôtel, focus.
Mais non, on débrief fort, antenne.
Il a épuisé toutes ses blagues de jaune.
Même pas.
Allez, sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous ce week-end pour Charlotte, la semaine prochaine pour le débrief. Bonne semaine, bye-bye.
Bon week-end de course, à la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous et pensez bien à prendre une pompe à vélo.